Tout d'abord, je vous souhaite de joyeuses Pâques, puisque nous sommes dans ce temps béni de la résurrection du Seigneur. Je vais donc vous faire aujourd'hui un exposé sur l'essor des nations au XIIIe siècle. Le XIIIe siècle fut un apogée de l'Église occidentale, mais il ne fut pas de longue durée, comme tous les apogées. Nous allons donc nous engager sur une voie descendante qui n'est pas sans présenter de nombreux points communs avec celle que nous sommes en train de vivre. À l'époque des croisades, les nations chrétiennes luttaient côte à côte. Français, anglais, allemands et anglais en Terre Sainte, et les Espagnols pour reconquérir leur sol, le tout devant le même ennemi. Cette belle unité ne tarda pas à se fissurer, le plus souvent devant des impératifs que l'on appelle économiques, car nul ne peut servir de maître. On cite souvent cette phrase attribuée à un notable vénitien que l'on appelait à participer à une croisade, « Nous sommes vénitiens d'abord, chrétiens ensuite ». Il est vrai que le commerce avec l'Orient était devenu très prospère, Venise devenait une place financière. Reconnaissons toutefois que les Vénitiens ont laissé une très belle ville, pleine d'œuvres d'art, ce qui est loin d'être le cas des capitales financières actuelles. L'unité des nations chrétiennes avait pour support le pouvoir politique du pape, car la société était foncièrement chrétienne. Toutefois, il faut garder à l'esprit que la primauté pontificale est d'essence spirituelle et non politique. Lorsqu'il la croit trop forte, César fait tout pour la réduire, voire pour la supprimer. C'est alors l'État laïque. Les drames du XIIIe siècle ont pour origine le désir, souvent immodéré, le désir du pape de garder le pouvoir dévolu à César. C'était au XIIIe siècle. Le royaume de France fut longtemps l'allié du Saint-Siège, en particulier du temps de Saint-Louis. C'est ainsi que le pape Urbain IV appela Charles d'Anjou, qui vécut de 1226 à 1285, frère de Saint-Louis, à être roi de Naples, cela dans le but d'éloigner les Hohenstaufen, qui peu à peu, et avec la complicité des Lombards, mettaient la main sur l'Italie, avaient l'ambition de régner dans le sud de la péninsule et de reconstituer à peu près l'empire de Charlemagne. Hélas, ce ne fut pas une réussite. Ambitieux et plutôt cauteleux, Charles d'Anjou ne sut pas s'attacher à son peuple. Cela se termina par les vêpres siciliennes, un massacre de plus, qui a donné lieu à un opéra. L'Italie était en plein chaos, un ensemble de petites principautés partagées entre Guelfes, penchant pour le pape, et Gibelins, partisans de l'empereur d'Allemagne. Mais ces principautés oscillaient d'un camp à l'autre, on serait tenté de dire, au gré des vents. À Rome même, cela se traduisait par une lutte féroce entre deux camps, les Orsini, plutôt Guelfes, et les Colonna, volontiers Gibelins. Toutefois, ces disputes se déchiraient jusqu'au conclave, et le Saint-Siège resta vide de 1292 à 1294. En 1292, il n'y avait plus que 11 cardinaux, dont un ne tarda pas à perdre son frère de la peste. Un de ces cardinaux, le cardinal évêque d'Ostie, les menaça de la colère divine et cita une prédiction annonçant malheur à l'Italie. Le cardinal Caetani, le futur Boniface VIII, dont nous reparlerons longuement, sourit en disant « Ce doit être Pierre de Morone ». Ce Pierre de Morone avait réuni quelques moines et fondé une congrégation afin de se dédier uniquement à la vie contemplative. Il déplorait le bruit fait autour de sa réputation de sainteté et se fit construire une cellule à l'écart pour converser seul avec Dieu. Mais la remarque de Caetani attira l'attention sur ce saint homme que le conclave nomma pape en 1294. Tout attaché à la contemplation, il était incontestablement au-dessus des partis. Après un petit temps de réflexion, il vit dans cette nomination le doigt de Dieu et l'accepta. Il prit le nom de Célestin V. Il avait 79 ans. Avait-il vraiment des dons suffisants pour diriger l'Église? Le père Philippe, mon tuteur théologique pendant 30 ans, avait fait remarquer que, à la mort de Saint-Pierre, le successeur évident semblait être Saint-Jean, encore relativement jeune, qui avait connu le Christ et qui se désignait dans son évangile comme le disciple que Jésus aimait. Mais, sagement, on lui préféra l'un diacre qui avait montré ses dons d'organisateur. Chaque saint a une vocation qui lui est propre. Le curé d'Ars n'est pas saint Thomas d'Aquin. C.S. 5 avait un caractère plutôt timide. Le jour de son intronisation, il refusa de monter un cheval. Il voulut une ânesse, dont, il est vrai, les rois de Hongrie et de Naples tenaient les brides. Il supprima toutes les marques de luxe, on dirait maintenant les clinquants, et condamna sa cour à des pénitences, à des jeûnes jugés bien austères. Son premier acte officiel fut de légiférer le conclave. Il devait désormais se tenir à Rome et élire un pape au bout de 10 jours. Les membres du conclave devaient être enfermés dans un bâtiment isolé, la porte murée, privée de communication avec l'extérieur. Une seule ouverture du côté du ciel pour dire la messe. Au bout de 3 jours, ils n'auraient pour repas qu'un seul plat, et au bout de 5 jours, ils seraient condamnés au pain sec et à l'eau. J'ai lu que le gros de ces mesures était toujours en vigueur de nos jours, peut-être avec de menus aménagements quand même. Les rois de Naples harcelaient pour qu'ils viennent s'installer à Naples, car ils espéraient profiter de sa faiblesse. Le pape s'aperçut vite qu'on le trompait. Il s'attrista de la malice des hommes, il était déprimé, écœuré de ces hommes qui se complaisaient dans le mesquin, comme par exemple cette demande de légiférer sur le costume des moines. Il pensa à abdiquer. En décembre, il réunit les cardinaux et leur lut une déclaration insistant sur son peu d'esprit pour les choses temporelles et sur la faiblesse de sa santé. On pense à Benoît XVI. Il retourna ensuite à son monastère. Un prêtre a dit que la chape faisait trop de pli sur ses épaules. Il fut naturellement très critiqué. Il fut néanmoins canonisé quelques années plus tard. Il n'y avait chez lui nulle lâcheté, simplement la conscience de son inadaptation à ce poste. Son successeur le fit enfermer dans une prison honorable, où il mourut 2 années plus tard, en 1296. Ce fut le seul pape à démissionner jusqu'à Benoît XVI. Le conclave et ses 24 cardinaux se réunirent en 1294 et, malgré l'opposition du roi de Naples, élirent comme pape le cardinal Caetani, celui qui avait poussé Célestin V à la démission. Ce pape prit le nom de Boniface VIII. On l'appelait le dernier pape du Moyen-Âge. C'était un canoniste réputé. Nommé cardinal à 53 ans en 1281 et légat en France en 1290. Il porta à l'extrême la doctrine de la souveraineté temporelle et spirituelle du pape. Il se heurta à la politique très séculière de Philippe le Bel, il voulut redonner à la papauté l'éclat qu'il croyait légitime. C'était un grand légiste, un homme énergique, impatient, allant parfois jusqu'à la violence. Il était plus souverain que saint. Naturellement, il fut calomnié. On lui reprocha le luxe et la magnificence dont il s'entourait. En face était Philippe le Bel, âgé de 28 ans, qui régnait depuis 10 ans. C'était le souverain le plus puissant de l'époque. Il était le petit-fils de Saint-Louis. Il était grand et beau, ne manquait pas d'énergie dans les batailles. Malheureusement, il s'entourait souvent d'hommes de loi peu consciencieux, plus attachés au légalisme qu'à la justice. Philippe le Bel était d'une susceptibilité ombrageuse. Dès qu'on touchait tant soit peu à ses intérêts, qu'il appelait ses droits, il portait la main à l'épée. Il songeait volontiers à la vengeance et avait une avidité extrême. Son gouvernement était volontiers corrupteur. Il fut le premier roi appelé faux-monnayeur, car il avait décidé de mêler un 25e d'alliage de cuivre à la belle monnaie qui était due à Saint-Louis. Décidément, il préfigurait notre triste époque sur bien des points. Au début du règne de Boniface VIII, la guerre était partout en Europe. Le pape avait le projet de tourner l'ardeur guerrière des nations chrétiennes vers les infidèles, mais les rivalités prenaient partout le dessus. En Sicile, entre la maison d'Anjou, en Espagne, entre Catalogne et Aragon, entre la France et l'Angleterre, dans des luttes que certains historiens appellent la première guerre de 100 ans. Philippe le Bel était allié à l'Écosse et Édouard Ier aux Flamands. Afin de mettre fin à ces luttes, Boniface VIII tenta de faire valoir son droit d'arbitrage, mais les rois refusèrent en disant au pape que cela ne le regardait pas. Le pape chercha des sanctions économiques, rien de nouveau sous le soleil. Il rappelait que les impôts sur les biens des clergés ne pouvaient être perçus qu'avec l'autorisation du pape. Comme de plus il y avait eu plusieurs irrégularités, certaines ont parlé d'exactions de la part des agents du fisc, il lança une bulle qui défendait aux clercs de payer la dîme au roi de l'Église Bon, et au roi de l'exiger, pardon, sous peine d'excommunication. Or, l'Église était riche malgré de très lourdes charges, comme charges au salaire des ouvriers, cérémonies, entretien des hôpitaux et des constructions, subventions aux universités et diverses œuvres de charité semblables à ce que nous appelons maintenant les restaurants du cœur. Les historiens assurent que Cluny distribuait chaque jour plusieurs centaines de repas. La dîme soulevée par la couronne restait importante, et par cette bulle, Boniface VIII privait les rois d'un revenu considérable. De plus, le clergé avait tendance à se raidir contre l'autorité royale et refusait tout subside à Philippe le Bel. Le roi répliqua en interdisant toute sortie d'argent vers Rome. Boniface restait malgré tout francophile, comme au début de son règne, en raison de son opposition à l'empereur. Il eut une accalmie lors de la canonisation de Saint-Louis en 1297. Pour donner du brillant au Saint-Siège, il décida de célébrer un jubilé en 1300, jubilé qui attira de nombreux fidèles. Mais l'arrestation de l'évêque de Pamiers en 1301, cet évêque qui soutenait avec passion la suzeraineté du pape sur les souverains avec des écrits injurieux, déclencha une violente polémique suivie de la convocation des évêques français à Rome, d'une nouvelle bulle et de l'excommunication de Philippe le Bel malgré la libération de l'évêque de Pamiers. La suite fut lamentable. Le 7 septembre 1303, Guillaume de Nogaret, envoyé par Philippe pour s'emparer du pape, pénétra dans les locaux avec quelques sbires, força sa porte et le brutalisa. Ce fut l'attentat d'Agnani. Libéré par sa population, le pape rentra à Rome pour y mourir un mois plus tard. Le pape suivant, Benoît XVI, renonça avec Philippe le Bel. Elle lutte avec Philippe le Bel en maintenant toutefois l'excommunication contre les auteurs de l'attentat d'Agnani. Le nouveau pape pensa quitter Rome pour échapper aux violences des Orsini. Il s'installa à Pérouse, où il ne tarda pas à mourir, certains disent empoisonné. Vraiment, l'Église est protégée de Dieu pour résister à de telles crispations. On peut y voir une preuve certaine de son institution divine. Encore une fois, joyeuse Pâques, et à bientôt pour la suite de ce siècle très, très agité.